Un petit message avant l'introduction traditionnelle de l'épisode. Vous avez peut-être remarqué que le podcast, en général, est très à la mode. De plus en plus de créateurs de podcasts vivent de leur création grâce aux pubs que l'hébergeur de podcasts intègre au début des épisodes. Comme faire de la pub pour Airbnb ou d'autres entreprises de ce genre n'est pas dans mes valeurs, j'ai choisi de tenter le modèle économique sur la base de dons et de partenariats avec des petites structures artisanales. J'aime la stratégie des petits pas et mon premier objectif serait de pouvoir au moins rembourser mes frais de création de podcast, le matériel et les frais de déplacement, ce qui représente environ 200 euros par mois. Mon auditoire s'élevant à 1000 auditeurs et auditrices environ, faites le calcul. Il suffirait que chaque auditeur-auditrice fasse un don de 5 euros de temps en temps pour que je puisse assez rapidement couvrir mes frais et peut-être commencer à vivre de ma passion. Rendez-vous sur mon compte Tipeee si vous souhaitez soutenir mon travail et si le partenariat vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à opaline@agroecologievoyageuse.com.
Et la truite, en fait, est en train de recoloniser les ruisseaux dans le coin grâce au Grand Laval, parce que tout arrive à nicher, à faire des petits ici, quoi. Donc, nous, les pêcheurs sont heureux, parce qu'ils voient qu'ici, en fait, le poisson arrive à revenir, parce qu'on leur a recréé leur habitat. Bon, en fait, le castor, quand il faisait ses barrages, c'était parce qu'en fait, il modifie l'habitat pour avoir suffisamment d'eau pour être à l'abri. Comme il est amphibie, tu vois, quand il est dans ces petites bassines là, de 40 cm de profondeur, il n'y a personne qui peut aller l'attaquer. Parce que dans la flotte, c'est la seule grosse bébête qui patauge dans l'eau. Le loup ne peut pas aller l'attaquer, tout ça ne peut aller l'embêter. Et en fait, en refaisant monter la rivière, donc il la remet à niveau, donc il réhydrate la terre autour. En faisant ça, du coup, l'eau, elle est ralentie à des endroits. Donc ça, tu vois, sur le côté, ça va faire des endroits où ça va toujours être rapide. Donc on n'a pas perdu cet habitat-là, mais on en a créé des nouveaux. Même un truc qui est vieux, enfin des habitats qui sont anciens, qui sont vraiment ultra exigeants, il leur faut des vieilles cavités à terreau, des trucs que tu trouves sur des vieilles forêts de centaines d'années et tout. Bah, comme ici, ils ont conservé les trognes de leurs mûriers, qu'ils ont des vieux chênes au fond qu'ils n'ont jamais coupés. Je ne connais pas d'espèces plus indicatrice de la santé du milieu pour ces habitats-là que ces espèces-là, tu vois. Les gens, ils viennent même maintenant se balader avec des jumelles. T'as tous les ornithos de la Drôme l'hiver qui viennent ici parce que c'est le seul coin où t'as des oiseaux hivernants dans la plaine de Valence, c'est ici. Enfin, une ferme a suscité un engouement, mais les gens, juste, ils font le tour de la ferme là. Ils sont extrêmement heureux. Et les gens, tu vois, leur balade du week-end, c'est de venir faire le tour de la ferme.
Dans cet épisode, on passe un très chouette moment à observer l'ouvrage Castor mimétique de la ferme du Grand Laval. D'où vient cette idée d'imiter le castor? Comment, en pratique, réaliser un ouvrage castor dans une ferme? Quels en sont les effets? Vous verrez que l'impact d'une telle création est très très rapide. Nous cheminons avec Melvin à travers la ferme, son ruisseau réensauvagé, une prairie vasière où moutons et oiseaux limicoles se sentent bien, jusqu'aux grandes cultures blindées d'insectes et de messicoles, pour reprendre les mots de Melvin. À la fin du parcours, j'avoue être un peu sonnée d'arriver au niveau des canaux bétonnés qui servent à l'irrigation du maïs de la plaine de Valence. On évoque aussi la relation qu'entretiennent les paysans du Grand Laval, qui sont aussi bergers, avec le loup. Pour terminer, on discute avec Melvin de la place du naturaliste dans une ferme. Discussion que j'aimerais prolonger avec Melvin à l'occasion. Si vous êtes paysan ou paysanne et que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si vous aimeriez vous-même faire appel à un naturaliste nomade. Je m'excuse encore une fois pour le vent dans le micro en fin d'épisode. Très belle écoute!
Est-ce que tu as déjà vu une rivière où l'eau est à niveau avec le sol? Comme ici, tu vois. L'eau n'est pas enfoncée dans le sol avec 1 mètre ou 2 mètres de profondeur par rapport...
Non, pas beaucoup.
Ouais. Mais en fait, C'est pour ça qu'à partir du moment où tu commences à voir ça, c'est qu'on a un problème en France, enfin en France, partout dans le monde, c'est que les rivières, en fait, on a peur de l'eau. Donc on veut qu'elle se barre le plus vite possible vers la mer, pour éviter l'inondation, tous ces trucs-là. Donc on a simplifié la rivière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, enfin, ce que tu disais ouais, il n'y a pas longtemps, c'est qu'elles sont toutes droites, rectilignes, avec un seul verre d'action, c'est de l'eau va très vite, très vite, très vite, et pour que ça parte vite vers la mer. Donc du coup, l'eau, elle reste plus chez nous, elle reste plus longtemps, elle court vers la mer. Donc dès qu'elle est là, la goutte, elle part vers la mer. Et comme ça, on se dit, cool, on n'a plus de problème avec l'eau. Puis après, c'est-à-dire, comme on n'a pas d'eau, après, on se retrouve à sécher nos terres, on fait des trucs bizarres, des bassines, tout ça. Mais on a ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau qui va très vite? Elle va racler, et elle, du coup, elle va éroder, ce qu'on appelle l'incision. Donc du coup, elle va racler le fond. Et ce qui se passe, c'est que en fait, la rivière va du coup s'enfoncer petit à petit dans le sol. Si la rivière s'enfonce petit à petit dans le sol, en fait, là, ce que tu vois, la couche d'eau qu'on voit de la rivière, c'est la face cachée de l'iceberg. En fait, la rivière, elle est beaucoup plus large. C'est pas juste l'eau que tu vois là. C'est, en fait, la rivière continue, court sur peut-être des centaines de mètres. Ça dépend des contextes géologiques. En fait, la rivière, elle est beaucoup plus longue que ça. Et elle coule aussi dans la terre, tu vois, elle continue. Et si ta rivière, elle s'enfonce, la partie qui est cachée dans la terre, elle s'enfonce aussi. Et du coup, tes plantes, elles sont plus dans, les racines sont plus dans l'eau. Donc en fait, le seul truc qui peut faire vivre ta plante, c'est la pluie. Actuellement, la pluie, elle est un peu bizarre, surtout l'été. Ouais,
d'où le principe d'être à niveau, comme ça, la luzerne à côté, elle peut bénéficier de l'eau aussi, et toutes les plantes autour.
Ouais, donc du coup, il y a ce côté-là, donc c'est l'incision de la rivière. Donc on a toutes nos rivières qui s'enfoncent, et du coup, ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement, donc c'est la rivière qui est dans la terre, tu vois, bah, elle s'enfonce. Donc en fait, involontairement, ça hydrate toute la terre et toute la vie qui est là. Et en fait, comme ça s'enfonce, ça remplit plus cette matière-là. On a aussi tout ce qui est sédiments, donc la terre. Hop, elle s'enfonce, ça court, ça va vers la mer. Donc on perd notre sédiment, on a tout qui s'abrase. On n'a plus la terre qui est hydratée. Donc la rivière, juste, elle est là, tu vois, elle court vers la mer, mais elle ne sert plus à rien. Et comme c'est tout droit, on n'a plus qu'un seul verre d'action, donc on n'a qu'un truc qu'elle fait, il n'y a plus que l'habitat. Je vais vite vers la mer. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, on n'a plus l'eau qui est ralentie, l'eau qui fait des bassins. On a juste un truc qu'elle fait, elle fait juste vite. Donc, moi, il y a des espèces qui sont inféodées à ça, mais on a plein d'espèces qu'on perd pour ça. Et voilà le principe. Et en fait, en Californie, ils se sont dit, quand il y a des incendies, les rivières, elles ne font même pas barrage, tu vois, aux incendies. Il y a tout qui est à sec partout, on n'a plus d'eau à cause de la pluie, donc c'est la merde, en fait, ça va devenir un désert. Et en fait, ils se sont rendus compte que le castor, ça faisait des millions d'années. Bon, en fait, le castor, quand il faisait ses barrages, c'était parce qu'en fait, il modifie l'habitat pour avoir suffisamment d'eau pour être à l'abri. Comme il est amphibie, tu vois, quand il est dans ces petites bassines là, de 40 à 60 cm de profondeur, il n'y a personne qui peut aller l'attaquer. Parce que dans la flotte, c'est la seule grosse bébête qui patauge dans l'eau. Le loup, il ne peut pas aller l'attaquer, tout ça ne peut aller l'embêter. Donc en fait, il fait ses barrages, tu vois, pour faire remonter le niveau de l'eau, pour être en sécurité. Et en fait, en refaisant monter la rivière, donc il la remet à niveau. Donc il réhydrate la terre autour. En faisant ça, du coup, l'eau, elle est ralentie à des endroits. Donc ça, tu vois, sur le côté, ça va faire des endroits où ça va toujours être rapide. Donc on n'a pas perdu cet habitat-là, mais on en a créé des nouveaux. Et en faisant remonter, donc il réhydrate la terre. Et du coup, hop, l'eau, elle va commencer à éroder latéralement plutôt qu'en profondeur. Du coup, pouf, les sédiments vont retomber au fond. La rivière va remonter naturellement grâce aux sédiments qui tombent. Donc du coup, on rentre dans une spirale de régénération active, c'est-à-dire que juste avec le barrage à castor, la rivière, pouf, elle va remonter. Et en abrasant sur les côtés, elle va méandrer. Donc elle va retrouver son cours un peu normal, elle va déborder sur les côtés. Donc en fait, on va redonner l'expression de la rivière au niveau maximal, tu vois, on va pouvoir lui redonner ça, alors qu'avant, elle était bloquée à l'intérieur dans sa gouttière parce qu'on l'avait fait dépérir. Et voilà un peu le tintouin du principe du barrage à castor. Et après, bon, il y a souvent les gens qui disent « Ouais, les poissons, ou c'est un barrage comme les barrages humains, ça pourrait être le barrage. » Mais en gros, il met par rapport au courant, le courant, il arrive comme ça, il met pas l'eau, les trucs comme ça, il met des trucs comme ça. Donc il met il prend ça, il le met comme ça, il remet de la terre, il en remet d'autres comme ça. En fait, il fait une lasagne, et à la fin, il met juste le bois, le gros bois qu'on voit tout le temps, c'est juste pour soutenir le barrage, parce qu'il y a une grosse pression.
Là, Melvin me montre la différence entre un barrage, auquel on pense quand on évoque ce mot, et la structure réelle que construit un castor. Pour voir à quoi ressemble une construction de castor, vous pouvez aller voir mon article, truffé de photos de l'ouvrage Castor, ou la vidéo Médecine Castor. Les liens sont en description de l'épisode.
Et du coup, l'eau, elle est ralentie, elle passe, le barrage est complètement perméable, mais l'eau est ralentie, ce qui fait qu'elle monte. Et comme ça, du coup, on n'a pas une rupture de continuité écologique, souvent les gens ont peur de ça. Les poissons arrivent à passer, ils arrivent aussi à passer quand elle est crue parce que le barrage est complètement sous l'eau. Ou tu vois, il y a plein de trucs qui font. On n'a pas de problème de continuité écologique, donc on a un truc comparé à tout ce que l'homme sait faire, qui fonctionne complètement parce que c'est complètement intégré, parce que tout a coévolué en fait, même les poissons, c'est des millions d'années, ils ont coévolué avec les barrages à castor. Et le barrage à castor, c'est un peu une solution, un remède pour remettre, parce que naturellement la rivière va quand même s'inciser, tu vois. Et en fait, avant, toutes les rivières étaient régénérées par le castor. Truc qu'on a perdu parce qu'on a décimé le castor en quelques centaines d'années. J'ai plus le chiffre, je crois que c'est 400 ans, un truc comme ça, mais en fait on a perdu une fonction écologique majeure qui était la restauration de nos rivières naturellement. Et du coup, pour les incendies, ça fait un endroit quand il y a des photos où tu vois, t'as juste autour du barrage à castor, t'as tout qui est vert alors que tout est brûlé autour. Donc ça a fait une barrière. Ça fait aussi une zone refuge, donc il y a tout qui repart du barrage à castor parce que ça a créé une zone un peu refuge où tout peut repartir. Ça réhydrate la terre à fond. Ça évite de perdre nos sédiments, tu vois. Et en fait, ça, comme l'eau se réhydrate, quand on est à l'étiage et que tu sais, toutes les rivières sont à sec, toute l'eau qui est imbibée dans la terre revient dans la rivière. Ce qui fait qu'en fait, le seul endroit qui n'est jamais à sec, c'est les endroits où il y a du castor. Parce que le castor, en fait, il a stocké de l'eau, il ne l'a pas volé, il la rend au moment où on en a besoin. Tu sais, quand on est là en ce moment à l'étiage, on dit « Ah, il faudrait faire une retenue d'eau là-bas pour amener de l'eau à l'étiage pour que la rivière ne soit pas à sec. » Plutôt que de faire vos barrages, aller tout défoncer au niveau hydrique et tout, on fait le castor avec son barrage en réhydratant la terre. Bah, naturellement l'eau va revenir et du coup la rivière n'est jamais à sec.
Et du coup ce que vous avez fait très concrètement, que là ouais. Ici il n'y avait rien, c'était sec
ouais.
Et il y avait de l'eau qui passait sous terre. En fait vous avez recréé une rivière en enlevant un drain, en gros c'est ça?
Ouais.
C'est un drain ça.
Ouais, tu verras en fait là ce qu'on a longé en fait il y a un drain qui est là qui commençait à être embusé ici là au niveau des sureaux et quand on sera là-bas au fond tu verras. Et en fait, les buses étaient sous terre, sous le plus bas niveau, en fait. C'était, on va dire, tu vas voir le plus bas niveau là-bas, et les buses étaient juste en dessous. Du coup, avec les financements là, de Marathon et Biodiversité, ils se sont dit, mais en fait, ça, on va le faire péter. Donc, on s'est retrouvé avec, à 3 mois, un drain qui était donc, à 2 mètres de profondeur. Il y avait ça d'eau, ça allait tout droit. On a dit, bon, c'est cool, on a recréé une rivière, mais bon, elle n'est pas super hospitalière aux vivants, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, il y a Baptiste qui est arrivé avec sa technique, il fait, mais attendez, on va faire un barrage à castor ici.
Donc il y a 3 mois, vous avez enlevé ça.
Ouais.
Il y avait une très petite rivière qui était...
Comme ça, et qui était incisée, du coup, qui était en profondeur.
Donc, d'accord.
Elle ne savait pas grand-chose. Et du coup, Baptiste a dit, ça va être notre premier site témoin. En fait, il n'y avait pas de législation, parce qu'on n'a pas trop le droit de faire des trucs sur l'eau, tu vois. En fait, le cours d'eau, là, il était sans loi, donc en fait, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait dessus, donc on en a profité pour tester cette technique de castor. Et ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, on avait ça d'eau, c'était fin comme ça, l'eau. C'était vraiment, on avait ça d'eau. Enfin comme ça, c'était vraiment pissotière le bordel, quoi. Il n'y avait rien. Quoi. Et on a fait ces barrages à castor, l'eau est remontée, mais l'eau est remontée et tu vois, ça fait ces zones qui sont complètement folles, donc des bassins, des vasières. Là-bas, tu verras les endroits où l'eau est toujours accélérée. L'eau est remontée énormément, donc du coup, la nappe d'accompagnement, là, tu vois, tout ça, c'est hydraté. On ne le voit pas, mais c'est hydraté. Si tu creuses, en fait, tu vas être dans l'eau. Et c'est juste...
C'est magique.
C'est juste magique, ouais, c'est le mot.
C'est tellement simple.
Et c'est tout con, ouais. Et là, tu vois pas, mais en fait, si tu regardes quand avec la lumière, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas si profond que ça. Il m'a menti, c'était pas à 2 mètres de profondeur dans le sol, parce que justement, ça a commencé à racler les sédiments sur le côté et à retenir les sédiments qui partent dans l'eau. Et du coup, là, en fait, ça fait remonter le niveau. En fait, si on enlevait le barrage, l'eau descendrait, mais moins qu'à la base, ça viendrait pas à la base, parce qu'en fait, on a déjà recommencé à restaurer la rivière, donc naturellement, on l'a rehaussé. Avec le stockage de sédiments grâce au barrage.
Mais elle risque pas de complètement déborder à un moment, si elle se rehausse tout le temps?
Oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de vol d'eau contrairement au barrage, parce que le débit est tout le temps le même. Donc certes, il y a eu un petit temps d'imbibation et compagnie, où là, le débit était plus faible, mais une fois que ça s'est fait, une fois que c'est rechargé aux périodes de grandes eaux, après, tu sais, c'est le même débit, donc en fait, il n'y a pas de vol d'eau, il n'y a pas de... Donc en fait, ça monte, si jamais ça monte... Ah oui, attends, ça ne répond pas à ton histoire de débordement. Non, ça peut pas déborder parce que si jamais ça déborde, en fait, la nappe d'eau va être sèche, c'est ce qu'on dit. Ça va se retrouver.
Ça s'étale sur une plus grande surface.
Ça s'étale sur une grande surface, ça rentrera tout de suite dans le sol. En fait, il y a des processus qui se font et puis le barrage va sauter un jour. Enfin, naturellement, tu le fais rentrer dans une spirale de régénération. À un moment, ça va se redégrader, ça va se régénérer. Mmh. Après, c'est dynamique, quoi. Ça va pas rester comme ça éternellement. Et ça, je disais, dans la diversité d'habitat qui est créée, tu vas avoir des libellules de rivière, là, tu sais, celle que je disais tout à l'heure, là, avec les ailes fumées. Là, tu as de la libellule de vasière, de la libellule d'étang. En fait, tu as toutes les espèces possibles. Sur toutes les, on s'est enquiquiné à faire plein de mares différentes. Et ici, tu arrives à voir toutes les espèces, parce qu'en fait, on a créé tellement d'habitats différents sur un même truc, que du coup, on va avoir. Rien que les libellules nous montrent en fait, qu'on a créé plein d'habitats différents et qui sont tous hospitaliers. Et ça, c'est assez beau, c'est assez fort, je trouve.
De réutiliser ce mot hospitalier, parce que ça fait penser à l'hospice, à l'hôpital.
Ouais.
C'est censé prendre soin. Oh, c'est quoi ça?
Ah oui, là, c'est une méga kill, c'est une abeille. Une espèce d'abeille.
Yep.
Oh, il y a plein d'espèces d'abeilles. On a un peu bloqué avec l'abeille domestique, et en fait, il y en a plein. Regarde toutes les traces de pattes, de hérons ou d'autres trucs qui viennent. Tu vois ça, en fait, il y a plein d'oiseaux qui viennent boire dedans, qui viennent. En fait, c'est pas intéressant que pour les espèces de zones humides, ouais. Mais tu vois, typiquement, ce que je disais, c'est qu'en gros, là, il y a une crue l'autre jour. Ça a percé le barrage, donc comme ça s'est percé, l'eau est passée par là. Comme elle a envie de passer, elle érode et du coup, quasiment tout le barrage s'est décapé. Donc hier, j'ai passé 3 heures à le remettre à niveau. Et en fait, ça, c'était à sec. Là, c'est en eau que depuis ce matin, c'est à nouveau à sec à cause de ce cassage. Et la dernière fois que j'ai réparé le barrage parce que c'était à sec, je te dis, le lendemain, on a des chevaliers qui sont venus se poser, tu vois. Je répare le machin le lendemain et ça s'est utilisé par les oiseaux, quoi. À quel point c'est fonctionnel, à quel point ça a été utile. Tu sais, j'ai fait ça, je me suis enquiquiné, j'ai passé mon après-midi sous le soleil à essayer de refaire monter le niveau d'eau. Et le lendemain, je peux pas être aussi bien remercié que comme ça, quoi, en voyant des espèces qu'on voit pas dans la Drôme parce qu'elles s'arrêtent pas, parce qu'il n'y a plus rien pour elles. Et parce qu'il y a un gugus qui s'amusait à faire mettre de la terre sur son barrage, le lendemain, il y a un truc qu'on voit jamais dans la Drôme qui vient se poser parce qu'on a recréé son habitat alors qu'il l'a complètement perdu. C'est pas un chevalier gambette. Mais juste qu'en Drôme, on a complètement flingué son habitat. Et là, dans un milieu agricole où il y a des gugus qui se sont amusés à mettre de la terre sur l'eau pour refaire monter le niveau et créer une vasière, bah, le machin il s'arrête, quoi. Et ça fait trop plaisir. J'ai envie que cette connaissance, tu vois, elle puisse servir. Et bah, tu vois, en fait, là, je suis là, je fais concrètement, je fais le barrage, et derrière, je vois ce qui marche, ce qui marche pas, parce que j'ai la chance d'avoir ce regard sur le vivant. Et là, tu vas réfléchir. Et en vrai, ça te permet vraiment, tu vois, d'essayer d'être le plus optimal dans ce que tu proposes, de ce que tu proposes au vivant. Et c'est assez intéressant. Et c'est ça qui fait la force aussi du Grand Laval, c'est que Seb est naturaliste de base. Donc forcément, il a eu ce flair de se dire « Tiens, je propose ça, tiens, si ça marche pas, qu'est-ce qui marche pas ?» Parce qu'il n'y a pas cette espèce-là qui vient. Et c'est un plus. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est que les agriculteurs, enfin les paysans, ils peuvent très bien le faire juste à l'expérience. Mais le fait d'être naturaliste apporte quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Et donc tu vois, donc là, on a créé un petit chenal qui est assez drôle. Parce que c'est un truc qu'on se dit pas, ça, mais... Oh, le niveau de l'eau et au-dessus de la rivière principale, du lit nageur. Il dit, c'est bizarre ça. C'est vraiment parce qu'en fait là, tout ça on s'en rend pas compte, mais il y a de l'eau. Et l'eau en fait par capillarité monte aussi ici. Enfin, c'est juste que en fait, ça c'est vraiment la fâche cassée de l'iceberg, quoi, la rivière ici. Et c'est pour ça que le fait qu'elle soit à niveau est vachement important. Et tu vois ce que je disais en habitat, il n'y a pas que l'étang qui est là-bas, il n'y a pas que la vasière. L'eau courante qui est importante, l'eau riche en oxygène, tout ça, elle est là. Et du coup, voilà, vraiment, on a planté un peu de phragmites, mais on n'a qu'une envie, c'est que ça, dans 2-3 ans, ça va être de la roselière quasiment partout. Et c'est un habitat qu'il n'y avait pas encore trop sur la ferme. Donc on a plein le gorge bleu à miroir, la rousserolle, je ne sais pas si tu vois. C'est des... Le gorge bleu, c'est un oiseau, c'est comme le rouge-gorge, mais avec la gorge bleue, ouais, c'est vraiment un truc de roselière. C'est vraiment des oiseaux qui vivent dans les roselières, qui nichent. On les a tous en migration, mais jamais en nidification, parce que l'habitat n'est pas assez grand pour les subvenir à leurs besoins sur toute une période de nidification. Et si on arrive à créer une roselière géante ici, dans 2-3 ans, en fait, ils vont rester. Ils vont être heureux, quoi, parce que ça veut dire que ces espèces-là qui sont en déclin, parce que les zones humides, les roselières, ça disparaît, bah, on aura créé l'habitat pour la nidification. Et tu vois, ça va être vraiment un indicateur. C'est est-ce que le truc est fonctionnel pour la halte migratoire? Ouais. Est-ce que le truc est fonctionnel pour la saison de nidification? Donc c'est-à-dire que l'habitat est tellement riche en nourriture et en cachette, bah ça, tu vois, ça va nous l'indiquer avec la présence de ces espèces ou pas. Et plus on va avoir des espèces exigeantes, plus on va savoir si le milieu est fonctionnel ou pas. Typiquement, tu vois, cette année avec les extensions, on a la rousserolle effarvate, donc on va dire qu'il y a l'oiseau le plus basique quand tu as une roselière qui vient, le moins exigeant. Il est enfin arrivé cette année en nicheur. On se dit cool, on a enfin une phase de roselière suffisante déjà pour la rousserolle. L'étape d'après, ça va être le gorge bleu, le machin, le ceci. Et le but ultime, ça serait d'avoir, tu vois, le blongios, c'est un petit héron de roselière qui n'a pas besoin d'une grosse surface de roselière, mais qui en a besoin quand même d'un petit peu, tu vois. Si l'on arrive à l'avoir sur la ferme, franchement, c'est jackpot qu'on ne peut pas faire mieux. Ah, ça s'est réouvert là. Il va falloir que je répare ça. L'eau, normalement, elle est censée passer écrêtée sur tout le long. Si elle invoque un endroit, elle va complètement racler. Et du coup, elle va s'enfoncer. Et du coup, bah là, ça sera plus connecté. Et moi, j'ai envie que ça soit connecté là. Je vais réparer ça tout à l'heure. Si tu veux aider, pourquoi pas. Quand t'es l'ouverture de la pêche, t'as tous les pêcheurs qui viennent ici pour pêcher de la truite et tout, parce que c'est l'un des seuls endroits où il y a encore de la truite. Et la truite, en fait, est en train de recoloniser les ruisseaux dans le coin grâce au Grand Laval, parce que tout arrive à nicher, enfin à nicher, à faire des petits ici, quoi. Donc nous, les pêcheurs sont heureux, parce qu'ils voient qu'ici, en fait, le poisson arrive à revenir, parce qu'on leur a recréé leur habitat. Et les pêcheurs le disent, quoi. Ils disent, oh, il y a de plus en plus de truites et tout, on est trop content. Bon, ils viennent les pêcher, tu dis, bon, si vous voulez en revoir des truites, il faudrait peut-être leur laisser le temps de revenir, mais. Et tu vois, donc là, normalement, c'est censé être plus haut, l'eau est vraiment suintée, et là, tout ça, c'est une cascade d'eau. Donc c'est encore un habitat différent, c'est pour ça que j'ai envie de réparer le truc là juste après. Ouais. Donc là c'est sur une parcelle aussi qui est plutôt grande culture. Donc là c'est que des petites parcelles de 1 hectare avec coupées, bande enherbée, haies. Donc ce qui est aussi vachement intéressant. Moi j'ai fait mes relevés papillons là-dedans, c'était blindé d'insectes. Alors que c'est du blé quoi. Mais c'est du blé en petite quantité. À côté c'était de l'orge, à côté c'était autre chose, c'est une culture différente. Et t'as ces haies entre les deux qui font que, bah, au pire c'est moins intéressant pour le vivant. Ça les bloque pas parce que ces petits ils peuvent passer, il y a des bandes enherbées pour les aider. Ils ont à manger sur les côtés, donc au final tu vois ça leur fait une route. Et ils s'en foutent. Et il y a plein de plantes, ce qu'on appelle des messicoles. Ça c'est les plantes des cultures qu'on avait avant et on les a perdues à cause de. Ils s'en foutent, je pense, ça aussi. Hop. On les a perdus à cause des pesticides, des moissons et tout. Et en fait, il n'y a que des espèces de messicoles en danger critique d'extinction. Il les a quasiment toutes dans ces trucs. En fait, il les ressème et les envoie chez des gens qui sont en bio pour justement réavoir ces messicoles qui reviennent. Et du coup, on a des plantes qui sont ultra rares, ici, qui sont ultra abondantes parce qu'elles reviennent à fond parce qu'en fait, on les limite, ils les cultivent quoi, pour les faire revenir. Donc là, tu vois, encore un nouvel habitat. Ça, c'est ça, c'est tout le temps. On dit tout le temps aux gens, faites une mare. Déjà, si les gens font une mare, c'est génial. Et là, on a l'œil naturaliste et se dire, mais je vais produire pas juste une mare, je vais faire des habitats complètement différents. Donc là, c'est une vasière alinicole. Donc, t'as la prairie aussi humide. En soi, avec les moutons, ça les dérange pas, tu vois, parce que du coup, il y a de l'herbe qui pousse très vite. Et les moutons peuvent aller pâturer là-dedans, donc il les fait pâturer là-dedans, tu vois. C'est pas complètement laissé à la nature, c'est ça, ça sera aussi exploité. Donc ça montre qu'en fait, on peut vivre de la terre tout en faisant un truc qui est hospitalier au vivant, tu vois. Genre, là, les moutons, ils vont pas être là-dedans. Mais en même temps, donc ça entretient le milieu en plus, mais c'est pas juste une prairie quelconque, quoi. C'est non, on a créé une prairie inondée, une prairie humide, qui est ultra intéressante. Tu vois, ça papillonne de partout, il y a tout le temps des trucs de fous qui viennent. Cet hiver, on a eu la bécassine sourde, donc c'est une cousine de la bécassine des marais, je sais pas si tu vois, qui est un truc dans la Drôme, c'était le seul endroit dans la Drôme, cet hiver, où elle a été notée. Elle a été notée tout l'hiver, elles sont restées tout l'hiver, en hivernage, sur la ferme, dans cette prairie inondée. Seul endroit de la Drôme. Il y a eu de la bécassine sourde. On n'a rien fait de truc que juste de laisser inonder. Souvent, quand les gens ils voient que leur sang s'inonde, ils vont en mettre de la terre, ils vont aller essayer d'embuser les ruisseaux et tout. Et là, il s'est dit, je vais pas faire du blé, mais je vais laisser paître les moutons et puis ça me fait un habitat de plus et puis moi, ça me dérange pas en fait. Et tu vois, il y a un truc là, si on se disait, comment on va communiquer dessus avec le barrage à Castor, c'est cool, ok, ça fait revenir de l'eau et tout. Mais au niveau agricole, pour le monde paysan, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut montrer? Et à la base, tu sais, ils voulaient là, en gros, tout inonder là, faire ça sur toute l'inondation. Et après, ils se sont dit, parce qu'ils se sont dit que c'était pas grave niveau rendement de perdre un petit peu de luzerne. Et après, ils se sont dit, mais le problème, c'est quel message on envoie si le barrage à Castor, c'est juste un prétexte à faire une réserve naturelle. C'est une zone humide géante qui n'est pas exploitée. Et après, ils se sont dit, mais en fait, si je fais venir un truc là pour mettre à niveau et que je fais une rizière, je crée ma zone humide. Mais j'exploite la zone humide. Et du coup, là, ça se trouve, tu reviens l'année prochaine, enfin, peut-être pas l'année prochaine, mais sans réflexion, c'est là de faire un triangle de zone. Donc là, ça serait complètement en eau, ça serait une rizière. Donc du coup, barrage à Castor, aux alentours, t'as une zone d'inondation, un truc qui est complètement en eau. Bah, tu mets, t'exploites des trucs qui sont faits pour être dans l'eau. Après, un peu au-delà, ce qui est un peu dans l'eau, mais pas tout le temps, bah, typiquement une prairie inondée, hop, tu fais venir tes moutons, pâturage et tout, comme ça, ils ont tout le temps de l'herbe verte et tout. Et au-delà, tu commences à faire des cultures où il faut vraiment pas qu'elles aient les pieds dans l'eau. Et du coup, tu commences, tu vois, autour, t'as restauré la rivière, t'as remis de l'eau dans ton écosystème, dans ton milieu, et en plus, intelligemment, tu fais tes cultures en fonction de ta proximité à l'eau. Donc forcément, c'est plus un truc parcelle, rectiligne, tout ça, c'est plus par rapport à un gradient d'éloignement à ton eau, à ta rivière, tu vois. Mais tu vois, la pensée qui est complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui, on arrive, quel que soit l'habitat, si on fait table rase et on fait notre truc comme on voulait et on essaie de tout contrôler, là, c'est on arrive, on a le milieu qui est comme ça, on apprend le milieu, on se dit comment j'organise mes cultures par rapport au milieu. Et c'est une façon de penser ouais, qui est plus naturelle, quoi, et qui est forcément beaucoup plus résiliente.
C'est quoi ça?
Piège photo, encore. Pour voir les limicoles qui se posent, voir s'il n'y a pas une dinguerie. Parce que le chevalier gambette, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment communs pour le coup. Enfin, communs. Qui sont espèces classiques dans les milieux classiques. Mais bon. Alors, les trognes, ouais, donc c'est pour créer un habitat. Bah, toutes les espèces, surtout pour les oiseaux, des trucs de nidification et aussi pour les insectes. Il y a beaucoup d'insectes du bois mort, des. Enfin, quand tu as des cavités comme ça, tu as l'arbre qui est à moitié mort, à moitié vivant, et parties qui sont mortes, des parties qui sont vivantes, c'est assez fou. Et je suis un peu les insectes, et je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les insectes saproxyliques, donc du bois mort. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des petits machins du bois mort. Bon, les trucs que tu trouves dès que tu laisses un peu de bois mort, tu les vois, ces espèces-là. J'ai eu le petit capricorne. Tu te dis, bon, bah, ça, c'est ceux qui ont les grands trucs noirs avec les très grandes antennes. Tu dis, ah là, ça commence à être sur des. Du bois mort un peu plus gros, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai trouvé l'autre jour? Le grand capricorne. Et l'Ater ferruginius, c'est le grand taupin. Enfin, c'est un taupin qui. Je sais pas si tu vois les taupins, c'est des trucs que tu sais, qui te mets sur le dos, ils font ting, ils sautent et ils font un roulé-boulé. Et c'est dans ce qu'on appelle les cavités latéraux. Donc, c'est vraiment les grosses trognes avec limite de la terre qui se fait en continu après l'arbre vivant qui meurt sur. Enfin, c'est un truc très rare et vraiment très vieux, tu vois. J'ai eu les deux sur la ferme. Ce qui montre, tu vois, en termes d'indicateurs, tu vois, c'est ça aussi d'avoir ce regard du vivant. C'est de se dire, ok, je fais des trucs pour le vivant. Mais quand tu as la fibre naturaliste un petit peu, tu arrives à interpréter un peu ce qui se passe. Tu vois, si ça marche, si ça marche pas. Même un truc qui est vieux, enfin des habitats qui sont anciens, qui sont vraiment ultra exigeants, il leur faut des vieilles cavités à terreau, des trucs que tu trouves sur des vieilles forêts de centaines d'années et tout. Bah, comme ici, ils ont conservé les trognes de leurs mûriers, qu'ils ont des vieux chênes au fond qu'ils n'ont jamais coupés, bah, en fait, on a même ces espèces-là qui sont présentes. Donc, c'est-à-dire qu'on a même ces habitats qui sont présents, c'est-à-dire que. Ce qu'on a vu, c'est la fâche cassée de l'iceberg, c'est très compliqué à voir. Je connais pas d'espèce plus indicatrice de la santé du milieu pour ces habitats-là que ces espèces-là, tu vois. Donc c'est pour ça que tu sais, j'ai commencé, j'ai trouvé les petits capricornes, là j'ai trouvé le petit, après j'ai le grand et le grand taupin, tu vois. C'est pour te dire, tu vois, j'ai vu les espèces qu'il y avait, tu vois, c'est une seuille d'indication, et j'ai trouvé le must. Et cet habitat-là, ils sont au niveau maximal, tu vois, ils peuvent pas faire plus, à part justement qu'il y en ait plus avec le temps, et c'est ce qui est en train d'être fait, tu vois. Donc là, je sais pas si tu vois, mais il y a un bras mort, c'est juste là, ils ont coupé le ruisseau, ils ont. Ouais. Donc comme ça, il n'y a pas de courant, c'est végétalisé, donc les poissons peuvent aller frayer là-dedans. Et ça marche du tonnerre.
Il y a une espèce aussi qui est endémique des trois, c'est la petite Rosalie, je crois.
La Rosalie des Alpes.
La Rosalie des Alpes.
Elle, c'est dans les hêtres. C'est dans les hêtres, ouais. Donc il n'y a pas de hêtres ici, donc c'est un peu logique qu'on la trouve pas. Et après, il y a aussi le pic-prune, donc c'est une cétoine énorme. Bon, alors ça, par contre, c'est tellement rare. C'est niveau dispersion, en fait, c'est pourri. Donc en fait, si t'as pas une allée de trucs à trogne tous les mètres, t'arriveras jamais à l'avoir arrivé malheureusement sur la ferme. Donc soit on estime que l'habitat est assez grand, on essaie de faire un potentiel de réhabilitation de l'espèce en le faisant venir. Ça faudrait voir avec des spécialistes. Mais tout seul, ça pourrait pas venir, donc c'est normal qu'on l'ait pas ici, tu vois. Et juste un truc, t'as vu là les gens qui se baladaient? Ici. Les gens viennent faire leur balade du week-end. Ils ont pas le droit techniquement, tu vois, c'est vraiment si ça devient le. La soirée de rando, tout le monde se balade dans la ferme, c'est un peu chiant pour ces belles-là, ça reste chez eux, tu vois. Mais les gens, juste, ils font le tour de la ferme là, ils sont extrêmement heureux. Et les gens, tu vois, leur balade du week-end, c'est de venir faire le tour de la ferme. Nulle part ailleurs, j'ai vu ça, des gens qui reviennent se balader dans le monde agricole, dans le monde rural. Parce que bah maintenant, c'est un désert où t'as un mec sur son tracteur, sur des hectares de maïs, pour un canard, qu'est-ce que tu veux de balader là-dedans? T'as perdu ce côté attrayant de la campagne. Et ici, tout le monde vient se balader ici, tu vois. Les gens, ils viennent là maintenant se balader avec des jumelles. T'as tous les ornithos de la Drôme l'hiver qui viennent ici, parce que c'est le seul coin où t'as des oiseaux hivernants dans la plaine de Valence, c'est ici. Enfin, une ferme a suscité un engouement. Donc t'as les gens qui reviennent juste pour le paysage, pour la nature. Tu as des spécialistes qui viennent juste pour voir des machins, parce qu'en fait, ils préfèrent être sur le bord de la route ici et regarder qu'être dans une rue naturelle pour chercher. Enfin, sur tous les tableaux, ça a marché. C'est trop fort. Bon, là, du coup, c'était moi aussi, tu vois pas, mais vraiment, ce que je disais, les messicoles, là. T'as le champ, il est rose. Alors, c'est du champ de blé, il est rose, en fait, de fleurs et tout. Du coup, c'est blindé de papillons. Tu dis, mais je suis dans un champ de blé ou dans une prairie, quoi. C'est... Et chaque plante, là, l'autre jour, quand on les a inventés, ils ont trouvé une plante. C'était là. Elle est en danger critique d'extinction à l'échelle de la région. Elle avait jamais été vue, je crois, depuis 10 ou 20 ans dans la région, un truc comme ça, quoi. Bon, elle est dans un champ de sable, il a ramassé toutes les graines. Je peux te dire que maintenant, il va aller la balancer chez tous les copains. Et la plante. La plante, ça, elle va revenir à fond, quoi. Donc là, on est chez Seb et Elsa, donc juste, tu vois que la maison...
Ah, ils habitent là.
Il y a des nichoirs partout, tu vois, t'as un nichoir de chevêche intégré, un nichoir à faucon cresserelle. Ils ont la chevêche, les frais, le cresserelle, les moineaux, les hirondelles dans la maison. Tu peux pas faire plus hospitalier aux vivants que ta maison, c'est la maison aussi des oiseaux, quoi. Donc tous les soirs, t'as la chevêche, moi quand je pars, je regarde la chevêche qui est posée sur le toit, qui chante avec les petits à côté.
Là.
Ouais. On s'amuse à pomper de l'eau avec du pétrole pour le foutre dans un truc en béton. Tu vois, donc là, tu vois, on a bétonisé un truc tout droit. Donc l'eau, tu vois, elle court vers la mer comme jamais. Donc on utilise du pétrole pour la détourner de la rivière, de l'Isère et tout, pour la foutre là-dedans. Le truc, il court à fond là-bas. Donc tu sais, en une journée, le matin, c'est là. Le soir, c'est limite à sec. Pour que les agriculteurs sur la route mettent leur pompe à pétrole pour repétroler, pour foutre de l'eau dans le maïs. Mais là, c'est même pas une truc qui remplit, c'est que quand c'est vide, il a rempli. Non, non, le truc court vers la mer. Donc c'est vraiment, on pend du pétrole pour balancer de l'eau à fond vers la mer. Il n'y a aucun intérêt écologique, c'est complètement ça. C'est dans le but béton, donc ça n'a plus aucune interaction. Juste pour qu'il y ait des autres mecs avec du pétrole. Enfin, tu dis, mais système plus con, tu meurs, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça, genre ici, je dis, mais c'est vraiment vrai. Chien de protection. Attaque de loup, il y a une attaque de loup il y a 2-3 jours.
Ah ouais.
Juste à côté. Tinto, Tinto. Tinto. C'est les fameuses parcelles des 5 ans, je te disais, donc jusque là-bas au peuplier, donc au bout de la route, c'est à eux. Mais tu vois la différence, c'est que là, ils peuvent pas, en fait, comme c'est de la location, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, on va juste aller là sur le petit chemin. Et aussi là, du coup, donc je disais attaque de loup. Tous les troupeaux aux alentours, ils se font défoncer par le loup. Petit spoil, il y a jamais loup, on l'a déjà eu au piège poteau ici, il n'y a jamais eu une seule brebis tuée. Fil électrique, patou, âne, vache. C'est quatre trucs qui sont connus pour dissuader les loups d'attaquer. Tous les gens qui se font taper autour, tous les mois ils se font taguer. Hein. Franchement, quand tu parles à Seb et Elsa, le loup, tu vois, ils ont peur, tu vois, quand ils les attaquent de loup, ils nous ont demandé si on pouvait venir voir et tout. Voir si s'il était bien présent, ça leur fait pas plaisir, tu vois. En même temps, ils sont contents de savoir qu'il y a loup, tu vois. C'est vraiment ce truc un peu compliqué d'être à la fois heureux et inquiet, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, ils ont réussi à cohabiter avec le loup. C'est que le loup, il se balade sur leur parcelle, on le sait très bien, mais ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Ils sont un petit peu emmerdés, ouais, c'est un peu de logistique en plus, mais ils n'ont jamais une attaque. Et du coup, tu vois, c'est très beau comme message, ça montre vraiment que tu sais, tu peux cohabiter avec le vivant, tu vois, si c'est qu'il n'y a pas que du bon, tu vois, dans ce modèle-là. Moi, il y a plein de trucs que je t'ai pas dit, mais cette année, quand j'ai vu, ils ont eu plein de galères à cause du surplus de vivants qu'il y avait sur la ferme.
Comme quoi?
Bah, typiquement, ils se sont retrouvés, comme ils laissent les herbes pousser à fond dans le verger, ils se sont retrouvés à avoir des limaces qui bouffaient les fruits. Un truc qui n'existe pas. On n'avait jamais vu des limaces qui bouffaient les fruits. Mais comme les herbes sont tellement hautes qu'elles touchent les fruits, bah, les limaces, boum, 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 elles montent. Donc à un moment, ils ont été obligés de faucher un petit peu en dessous des machins, tu vois. Et ça crée tout le temps, en fait, il y a forcément des trucs où des fois ça va être compliqué, tu vois.
C'est la question des limites.
Ouais, mais...
C'est pour ça que entre sauvages, en fait, ouais, quels espaces tu laisses en total, en libre évolution sauvage, et quels espaces où tu dis stop, là, le sauvage, là, c'est mon côté, quoi.
Ouais, bah c'est vraiment important, c'est que c'est vraiment que tout le monde soit cultivable, qu'on puisse vivre de la terre, tu vois, c'est pas en raisin naturel ou en jachère, tu vois. Il y a des bandes enherbées, tu vois, donc petites parcelles, bon enherbé, avec ça maintenant carrément des piquets machin. Et ce qui est complètement fou en fait, c'est qu'on a dans mes résultats là, j'ai des fois des biodiversités qui sont plus fortes ici que sur les parcelles de 17 ans. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'espèces qui sont inféodées aux grandes cultures, enfin aux grandes cultures, au paysage, au milieu ouvert. Là-bas en fait, en mettant des haies et tout, on referme le milieu. Donc il y a des espèces qui n'en bénéficient pas de ça. Donc on a des espèces malheureusement qui sont pour qui le modèle du Grand Laval là-bas n'est pas favorable. Du coup, Seb et Elsa, ils sont super contents de d'avoir ces grandes cultures-là, parce qu'en fait, ils arrivent à refaire venir du vivant des grandes cultures, donc en fait, limite la biodiversité qui se pète le plus la gueule actuellement, parce que bah, en fait, les grandes cultures maintenant, c'est une monoculture de maïs, tu as le malheur de poser dedans, si tu ne fais pas asperger, si tu ne meurs pas d'étouffement de pesticides ou que tu ne te fais pas moissonner, c'est un miracle, quoi. Et en fait, ici, typiquement, il y a le bruant proyer dans le truc d'Arte, là, d'un moment, j'en parle. C'est une espèce pas super jolie, tu vois, mais dans la plaine de Valence, il n'existe plus. Sauf sur la plaine du Grand Laval, depuis 5 ans qu'il est là. Cette année, l'autre jour, là, quand on est passé dans la tranche immense, il y avait les jeunes qui sont sortis, il y avait plus de 100 dans les tournesols. Un oiseau, tu ne le trouves pas dans la plaine de Valence. Le seul endroit où tu le trouves, ce sont les parcelles de Seb et Elsa. Il y en a 100 en une reproduction. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de couples, et que tous les petits sont sortis, et quand tu te retrouves avec. T'es arrivé, t'as 10 oiseaux qui sont là que sur cette parcelle-là. Déjà pour accueillir 10 oiseaux, tu vois le truc, t'en as genre 100 à la fin de l'année, quoi. Ils sont entêtés, mais avec Seb, on a les larmes aux yeux, quoi. Ils disent, mais putain, mais c'est un truc de malade, quoi.
Je vous propose ici d'écouter Melvin présenter ses résultats de comptage de papillons lors du festival en ligne des Jardins-Forêts. Pour écouter l'intervention complète de Melvin, rendez-vous sur le site des alvéoles. Le lien est en description.
Et typiquement, j'ai eu la chance de récupérer le jeu de données STERF, donc c'est les papillons de jour français. Et je me suis amusé à faire plein de petites analyses. Donc là, c'est peut-être pas très compréhensible, mais en gros, vous avez le... Donc là, on est sur la richesse spécifique, la richesse spécifique moyenne pour la ferme du Grand Laval. Et je me suis dit, tiens, on va le comparer à la moyenne, enfin de la moyenne de diversité des papillons des milieux agricoles français, pour savoir en gros si est-ce que la ferme du Grand Laval est en moyenne en richesse spécifique de papillons meilleure ou moins bonne que le milieu agricole français. Et là, sans surprise, on est significativement supérieur au milieu agricole français, ce qui veut dire qu'en moyenne, la richesse spécifique était plus forte à la ferme du Grand Laval que sur le milieu agricole français. Et après, je me suis dit, bah, autant aller plus loin, soyons fous, comparons la ferme du Grand Laval, la moyenne de richesse spécifique en papillon sur la ferme du Grand Laval par rapport à la moyenne en France, tout habitat confondu. Donc, sachant que le milieu agricole, en général, c'est l'endroit où on a le moins de diversité spécifique pour les papillons. Et là encore, on est significativement au-dessus. Et je me suis dit, oui, mais on va peut-être me dire, bon, bah, le nord de la France, c'est pas l'endroit où il y a le plus de papillons, donc on va faire que le sud-est de la France. Et là encore, on est significativement au-dessus. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'après, j'ai séparé, j'ai fait les parcelles reprises il y a 17 ans, donc c'est le vert clair, et les parcelles reprises il y a 5 ans, c'est l'orange. Et elles aussi, étaient significativement supérieures à ces trois trucs, à ces trois groupes auxquels j'ai comparé. Ce qui veut dire qu'en moyenne, même la parcelle reprise il y a 5 ans, on n'a pas fait plein d'infrastructures agroécologiques, on a juste joué sur les cultures. C'était quelque chose déjà qui avait un effet pour les papillons qui était vraiment très 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 puissant. Et ça, je trouve ça juste. Moi, je trouve ça beau parce que justement, quand c'est compliqué pour beaucoup d'agriculteurs de changer leurs pratiques, on leur dit bah, faudrait rendre tant de surface à la nature. En fait, non, déjà, juste si tu commences à parcelliser faire des petites parcelles, à diversifier tes cultures, à éviter les produits phyto, bah, déjà rien que ça, bah, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et du coup, tu vois, c'est ce côté, du coup, ici, si jamais ils arrivent à acheter ces terres, c'est très compliqué malheureusement parce qu'on a envie de leur voler et tout, mais si j'arrive à acheter ces terres et à stabiliser le truc, Seb l'a dit, ils feront peut-être une ou deux mares, tu vois, parce que ça sera un plus, mais ils ne vont pas remettre des haies partout, à tout couper, ils vont laisser en paysage ouvert parce qu'en fait, ça peut être hospitalier à énormément d'espèces parce que c'est les seuls à proposer de la grande culture vertueuse, raisonnable au maximum, tu vois, au paroxysme. Je pense qu'on ne peut pas faire plus grande culture que ça en cool. C'est plein de petites cultures en bio avec des bandes enherbées qui sont quand même bien larges. C'est que de la messicole, si tu regardes la moitié des plantes là-dedans sont rares ou tout ça. C'est des papillons, je les trouve même pas sur la parcelle de 17 ans parce que c'est des papillons de milieu ouvert. Enfin. Et tu te dis en fait, on n'a pas besoin en fait, de tout supprimer ou de faire que comme Seb et Elsa là-bas, tu vois. Mais on a besoin, tu vois, de s'imprégner, je pense, de se nourrir de ce qui est fait, de la philosophie en fait du truc pour. Pour y penser un peu plus, tu vas te dire, mais en fait, le champ de maïs là-bas, pourquoi je ne couperais pas en 6 avec des bandes enherbées, à le passer en bio, pourquoi là, en fait, on est sur du sable et qu'on n'a pas d'eau, pourquoi je ne ferais pas autre chose que du maïs, tu vois, enfin, tu vois, commencer à réfléchir plus par rapport à l'habitat sur lequel tu es, plutôt qu'à dire je vais faire du maïs là et après je vais adapter pour régler le problème pour faire du maïs, tu vois. Là, tu vois, on est sur un truc qui est complètement différent, qui est de la grande culture à fond, mais qui est quand même pourtant tout aussi intéressant, voire plus, que ce qu'on a vu là-bas. Et bon, peut-être que forcément, c'est peut-être un peu moins agréable de se balader ici que de se balader là-bas, parce que bon, c'est plus ouvert, mais tu vois quand même, enfin, c'est beau. Enfin, ça reste beau, là, bon. On est en fin d'été, donc forcément, le milieu prairial est un peu à sec. Donc c'est moins... Mais au printemps, là, je peux te dire que c'était une crise d'épilepsie en papillon, quoi. C'était un truc de fou furieux. Bon, après, je sais pas si t'as envie qu'on aille tout là-bas.
Non,
mais en gros, ça va jusqu'au peuplier, là-bas. Et on a la pigrièche, on a du busard... L'hiver, en hivernage ou en migration, on a vraiment énormément de trucs qui s'arrêtent ici. Donc c'est vraiment, vraiment trop trop la classe, quoi. Et ça, du coup, c'est des parcelles qui ont que 5 ans. Donc là, elles viennent enfin d'être labellisées bio. C'est assez tout récent. Mais en fait, tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là, avec le réseau Ferme Paysanne et Sauvage, c'est que le naturaliste, tu vois, c'est pas juste quelqu'un qui fait des listes d'espèces. Parce que souvent, tu sais, c'est dans les bureaux d'études, tout ça, c'est juste vu comme... La loi dit, bon, bah, il faut un spécialiste qui vienne faire une liste d'espèces et après, de toute façon, on s'en fout de ce qu'il dit ou pas, tu vois. C'est un peu le problème. Donc ça, j'étais vraiment en mode, bon, bah, puisque j'ai vraiment envie de faire ça, si ça sert à rien, quoi. Je suis arrivé ici, en fait, les paysans, juste trop heureux d'avoir un naturaliste. Parce qu'en fait, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce regard, je suis capable, comme Seb ou comme Baptiste, tu vois, de voir par le vivant, c'est d'essayer de traduire, d'interpréter ce qui se passe. Ce que les paysans, ce qui est tout à fait normal, n'ont pas le temps de faire ou sont pas capables de faire en totalité. Moi, je suis pas capable de comprendre leur modèle agricole en totalité. Et du coup, tu te rends compte que le naturaliste et le paysan, il y a vraiment, tu vois, un lien très fort, un truc limite complémentaire qui est assez intéressant. Et du coup, bah, je me dis, les premières années, j'ai envie de voyager pour le plaisir, de découvrir plein de choses parce que bon, c'est le moment, quoi. Et ce que j'ai réussi à faire avec Brice, tu vois, qui va beaucoup dans les milieux agricoles en Saline-et-Choire, c'est d'aller faire des inventaires pré-diagnostiques dans les milieux agricoles, qui leur fait un T0, de savoir le vivant qu'ils accueillent déjà, et après, du coup, pouvoir discuter de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'ils pourraient... Et du coup, tu sais que les gens, comme ils sont fait venir, c'est qu'ils ont envie, justement, de savoir déjà le vivant qu'ils accueillent, et de savoir comment protéger, déjà, conserver ce qu'ils accueillent déjà, et comment être plus hospitalier aux vivants, s'ils sont un peu dans la même démarche. Et du coup, bah, t'es là, tu te dis, mais en fait, moi, c'est carrément ça que je veux faire, tu vois, un temps, c'est de... Avant d'apprendre des nouvelles connaissances, des trucs que je sais pas du tout faire, parce qu'honnêtement, le métier d'agriculteur, je ne le connais pas. J'ai des connaissances par-ci, par-là, parce que j'écoute beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, et je vis dans ce monde-là depuis que je suis tout petit. Mais c'est pas pour autant que je suis légitime et que je serai vivre de la terre demain, tu vois. Mais je m'en nourris et j'ai envie à terme de faire ça, tu vois. Il y a plein de gens qui savent pas comment, qui ont pas le temps et tout, mais qui ont envie de changer ou qui ont envie de faire des choses. Et je peux leur apporter quelque chose, tu vois. Et je me dis, bah, si j'arrive à me lancer là-dedans, mes premières années, ça me plairait bien de faire ça avant.
Naturaliste nomade dans les fermes.
Ouais, un peu, ouais, ça c'est le truc, faire de la presta, quoi, pour aller faire des inventaires et du coup analyser, un peu interpréter.
J'aurais tout un fichier client à te donner dessus.
Je trouve que, tu vois, ce métier-là pourrait apporter beaucoup, pourrait être important. Enfin, de ce que je vois, ce que naturaliste à perme aux fermes paysannes et sauvages, je me dis que bah, y a du monde qui pourrait être intéressé par ça, quoi, et c'est pas un truc qui est fait pour l'instant.
Ça fait partie des métiers, typiquement, de la transition agroécologique auxquels l'école d'agroécologie voyageuse aurait pu aboutir.
Ouais.
Là, bon, le projet s'est arrêté, mais on a besoin de gens comme toi, quoi.
Et voilà, cette série de 3 épisodes se termine sur cette note utopiste. Et si des naturalistes nomades essaimaient sur le territoire pour aller accompagner les fermes à recréer une place pour le vivant. Quel modèle économique créer pour ce métier ? Les fermes pourront, voudront-elles, rémunérer cette mission de grande exploration du vivant à la ferme ? Imaginez que chaque paysan, paysanne qui s'installe aujourd'hui puisse faire un diagnostic à son installation de la vie présente sur la ferme pour célébrer 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, le foisonnement de vie qui se serait développé. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.